provient directement du Portugal avec son bronzage deux tons.
Bronzage douté. Je l'appellerai la crème glacée napolitaine, je pense.
C'est notre chroniqueur, David Chabot, qui est en studio. Comment ça va, mon ami?
T'sais, je rentre dans le studio, première chose me fait dire « Hey, t'as donc une face en deux tons. »
C'était juste la troisième.
Moi aussi, je suis content.
C'est qu'il s'est fait bronzer avec sa calotte sur la tête. Il a joué au golf avec son père.
Mais il nous l'a pas dit, là. C'est juste qu'on l'a regardé. Puis là, après ça, David, t'as-tu mis une casquette pas mal, toi, en vacances?
Ah oui.
Parce qu'il y a vraiment le front blanc, puis le reste, quelque peu bronzé. Mais on t'aime, là, c'est divertissant.
Hey, je veux te poser la question, David. Quiconque a été en Espagne et au Portugal pendant quelques temps, après ça, il revient au Canada, surtout au Québec, pogne un deux minutes sur le coup de la vie, là.
Et oui,
tu l'as-tu pogné, ton coup de la vie, ton deux minutes au Québec?
Ah, clairement. J'ai posté ça hier, là. Hier matin, je pars à la maison pour faire de l'épicerie, puis tout ça. Fait que là, j'arrête au couche-tard, je me prends un chèque de protéines. Puis un croissant.
Ouais.
Je comprends que c'est pas un exemple de saine alimentation. Là,
mais... Non, mais ça a l'air qu'au Portugal, tu faisais la même affaire. Fait que ça semble plus une habitude qu'une fois de temps en temps, j'ai pas fait l'épicerie, là, David Chabot.
Le gars, il fait pas de la bédaine pour rien. Fait que là, j'arrête là, ça coûte 11,50. Je pense pas à mes affaires, je paye tout. Puis ça, je repense à ça. À Quintera, là, au Portugal, je pars avec mon père. On arrête dans un Lidl, là, qui est comme une espèce de IGA, mettons, là-bas. Deux croissants, deux chèques de protéines, une grosse bouteille d'eau, deux pommes. Une pomme, ça a coûté comme 4 euros. Donc, à peu près 6 piastres canadiens pour, mettons, un lunch pour deux personnes. Puis là, c'est un exemple de... Mais tu sais, on est allé au restaurant maintenant, on est dans un restaurant de sushi, puis sérieusement, ça nous a... Il était incroyable, ce restaurant-là, puis il n'y avait personne dedans, parce que, en tout cas, pour plein de raisons, mais c'était vraiment, vraiment bon. Là, on dit que ça va coûter 150 euros. Ça a coûté 70 euros type inclus, tu sais.
Mm. Mais c'est quoi leur truc à eux autres? Qu'est-ce qu'ils font aux autres que nous autres, on comprend pas? Tu sais, juste les bouteilles de vin. Là, j'ai un de mes chums qui est un bon buveur de vin, puis il fait des voyages expressément en Espagne puis au Portugal pour goûter au vin. Un genre de gars comme toi là, qui aime ça découvrir des affaires, mais lui, sa passion, c'est les vins. Tu sais, des fois, il me parle de bouteilles à 6-7 piastres là-bas.
Oui, mais ils sont à
puis
côté.
Il me dit, Yann, ça goûte le ciel.
Le transport,
je comprends bien que ça goûte
la quantité.
Le ciel. Mais cette bouteille-là, ici, avec ce que la sac fait, tu sais, elle vaut 60, 70, 80 piastres. Il me dit, comment ça peut coûter 6 piastres là-bas, 80 piastres ici?
Oui, il y a un bout de shipping et de commercialisation là-dedans, mais... Tu sais, la sac, ça garde tellement une immense marge que c'est la solution.
Mais en restauration, c'était x3,5.
Tu sais, Yannick, il y a des produits qui ont été refusés à sac parce que les prix n'étaient pas assez hauts comparativement à ce que la sac souhaitait.
C'est arrivé à un producteur de vin de glace. Je pense qu'il était proche de la Ronde à Montréal.
Mm-hmm.
Puis il produisait du vin de glace. Il a envoyé son produit à la sac. La sac était très intéressée par le produit, mais ils ont dit « Il est pas assez cher, ton produit. »
Oui, parce que le pourcentage était le même, mais vu que le prix était plus bas, il faisait moins d'argent.
Donc là, lui, il a tout changé ses affaires. En fait, c'est pas vrai. Il a juste mis une pièce de plus, puis il a réussi à rentrer à sac avec son vin de glace.
Ouais.
C'est fou, raide.
Ouais, mais tu sais, l'inflation, là, c'est plein de facteurs. Là, l'alcool, OK, c'est des dépenses discrétionnaires. Mettons, ça te tente de te payer un trip, là, mais tu vas à l'épicerie, puis t'achètes un steak, puis ça coûte 17 piastres, là. T'es comme, voyons donc. Là,
pis... Mais au Portugal, là, les hôpitaux sont-ils en ruine? Les écoles sont-ils en ruine? Les routes sont-ils en ruine?
Honnêtement, c'est un peu pic-pac. Comme pays.
Ouais.
J'étais allé en Europe à plein de places, puis c'est peut-être le pays le plus pic-pac que j'ai vu. Pic-pac dans le sens que à Lisbonne, c'est super, c'est vraiment une excellente ville. Je suggère à tout le monde d'y aller, c'est beau. Tous les endroits que tu regardes, c'est beau, il y a de l'histoire. C'est le berceau de la découverte du monde, dans le fond, là, à partir d'un point de vue européen. Mais quand tu sors, là, nous autres, on est allé en Algavre, qui est au sud du pays, puis là, t'es plus en campagne. Puis là, mettons, quand tu sors de l'autoroute, t'as des routes qui sont. Mettons, une voie, mais c'est deux voies, puis ça roule 70 des deux bords.
Sur du genre de sable, là, en plus. En tout cas, mais moi, ça fait plus de 10 ans que j'y ai été. Je me dis qu'avec tout le tourisme, que Portugal, auparavant, c'était encore moins cher que ce l'est en ce moment. C'était très, très avantageux pour le tourisme. C'est pour ça que tu allais là en pack-sac à 18-19 ans. Mais ça s'est quand même développé. Pour avoir testé par l'hôpital du côté de l'Espagne, non au Portugal, il y a la mère de mon ami qui s'était blessée, puis là, il fallait baragouiner de l'espagnol puis essayer de se débrouiller là-dedans. C'était tout croche, le diagnostic n'était pas le bon. Une chance qu'elle a décidé de prendre l'avion quand même et de venir se faire soigner au Québec parce que le diagnostic, c'était complètement cassé en Espagne. Il fallait qu'elle y reste, blablabla, versus fêlure du côté du Québec. Puis, tu sais, il y a ça, moi, qui m'avait alerté dans le temps.
OK. J'ai pas expérimenté les hôpitaux.
Oui, c'est une bonne chose.
Mais, tu sais, c'est un pays qui tient pareil. Je pense que c'est un peu moins riche que nous là, en termes de services sociaux, filets sociaux, etc. Mais tu as un sentiment de liberté. Tu te promènes, le monde roule vite, ces autoroutes, puis ça dérange pas personne. Tu croises pas de police. Dans une petite ville, mettons, là, t'as tu te promènes un petit café, tu t'assis, tu manges ça, c'est pas compliqué. C'est quelques euros, tu vas prendre, je sais pas trop, là, un petit tapas puis un drink, tu repars.
Mm. La nourriture, ça coûtait tellement pas cher, ouais. C'est encore le cas, toi.
Oui, exact. Fait que tu sais, c'est vraiment un sentiment différent qu'ici, tu sais, tout est un peu lourd au Québec.
Puis là, t'entends ta dépression, là, c'est ça? Oui.
Il va redevenir une couleur dans son visage.
C'est ça.
Chérie, finalement, on s'en va vivre là-bas.
Je vais s'occuper du sommeil, là, puis après ça, je vais m'occuper de la dépression.
Ben oui. Hey, aujourd'hui, on parle, je sais pas si Donald Trump s'est inspiré du fameux goal, du fameux but de Sidney Crosby pour le Golden Goal, mais lui, il veut faire le Golden Dome. C'est quoi cette affaire-là?
Bon, Louis Gauthier en a parlé un petit peu tantôt, j'ai écouté sa radio, là, mais c'est une idée qui existe depuis longtemps aux États-Unis, puis ça datait de la guerre froide. Là, ce qu'on voulait, c'était vraiment comme un dôme virtuel, si tu veux, de bouclier antimissile. Okay. Pour...
Un peu comme le dôme de fer qu'il y a en Israël.
Exactement. C'est la même idée, là, mais là, on se ramène dans les années 80, parce que là, c'était des missiles intercontinentaux nucléaires contre l'URSS. Puis là, tu sais, c'était le spectre de la guerre nucléaire. Okay. À ce moment-là, Reagan...
Ouais. Je vais peut-être te surprendre. Moi, je pensais que c'était déjà mis en place depuis plusieurs années, ce fameux dôme-là avec le NORAD.
Non.
J'étais persuadé qu'on était protégé. Si jamais Poutine était fâché, pesait sur un piton, après ça, ça passait par le nord, après ça, ça passait au-dessus du Canada, juste avant d'arriver au-dessus du Canada. Merci, bonsoir, le NORAD a envoyé un missile, interception, c'est fini, c'est terminé.
Non. On a un réseau de radars extrêmement extensif et très sensible.
Ouais.
Ça existe. Fait que les missiles, on les voit venir, mais on n'est pas capable de les attraper. C'est parce que là, la technologie a beaucoup avancé. Puis là, les missiles balistiques, maintenant, se séparent en genre de 15 têtes différentes quand ils rentrent dans l'atmosphère. Puis tu as des missiles hypersoniques aussi qui vont vraiment très, très vite, là, genre à 5-6 000 km/h. Fait que la technologie est tellement avancée, on n'a pas de système pour intercepter ça en ce moment. Fait que c'est ça l'idée derrière ce que Trump propose aujourd'hui. Un genre de projet pilote à 25 milliards, c'est pas drôle à dire, qui pourrait finir à, selon lui, 175 milliards, mais selon certains analystes, ça va dépasser 500 milliards.
Ouais. Ça, il veut tout ça pour l'Amérique ou il veut ça uniquement pour les États-Unis d'Amérique?
Ouais, si on se ramène au Canada, tu sais... Le Trump a dit « On va le faire, puis le Canada, ça te tente-tu? » Puis le Carney a déjà levé la main en disant « Ben, regarde, on va participer, puis tout, mais
ça
on
serait une
pas.
Bonne idée, oui. »
Ben, tu sais, puis là, c'est là que c'est un peu... c'est une belle stratégie de Trump d'avoir mis tellement de pression sur les échanges commerciaux que là, à ce temps, on fait tout pour essayer de faire plaisir. Fait que là, il arrive avec sa patente à 500 milliards, puis là, tout de suite, on dit « Ah non, non, mais je vais embarquer, tu sais. » Puis oui, on a un certain bénéfice collatéral parce qu'on est techniquement à risque de se faire tirer des missiles nucléaires, mais...
C'est clair que ça passe au-dessus de nous autres s'il arrive de quoi.
C'est ça. Puis ça se peut que ça tombe chez nous aussi, tu sais, à Ottawa, Toronto. Tu sais, Toronto, c'est une grande ville, pareil. Ça pourrait être une cible. Mais le risque de ça est tellement théorique, là, parce qu'une vraie guerre nucléaire, moi, j'y crois pas. Là, tout ça peut dans la vie, là, mais c'est un risque qui est tellement faible parce que, tu sais, finalement, là, quand tu attaques quelqu'un avec une arme nucléaire, tu vas te faire attaquer en retour là, si c'est un pays nucléarisé. Là. Fait que là, tu sais, les vrais ennemis, je mets ça en gros guillemets, de l'Occident, tu sais, c'est la Russie, c'est la Corée du Nord, c'est la Chine. C'est pas mal les autres qui possèdent les armes nucléaires en plus grande... quantité, puis l'Iran, ben là, on se doute bien que ça va arriver à un moment donné, là.
Mais ça a toujours été des ennemis sur la carte, mais il y a toujours eu une rétention quand même, même sur l'arme, ben surtout sur l'arme nucléaire, parce que personne qui veut être le premier à peser dessus. Là.
Non, c'est ça. Tu pèses sur le piton, c'est satisfaisant. Tu sais, j'ai fait de quoi?
Mais t'as une réaction en chaîne que tu peux pas prévoir. Hier, parce que tu sais, moi, je pensais que c'était déjà fait, ce fameux dôme-là, là, où l'Amérique était protégée. Si jamais il y avait un missile qui était envoyé puis qui passait au-dessus de notre tête, les Américains étaient là pour nous protéger, mais toi, tu me confirmes que ce n'est pas encore le cas. Hier, j'écoutais un vieux documentaire. Je ne sais pas si c'est un vieux documentaire. Ça vient d'apparaître sur Netflix. C'est, en français, c'est « Traque d'Oussama Ben Laden ». Okay?
Okay.
Puis là, il nous rapporte, il nous ramène au moment où il y a eu les tours du World Trade Center qui s'est écroulé avec les avions qui sont lancés. Puis là, on voyait comme les yeux du président qui était dans une classe. Puis là,
garderie.
Il était assis. Mm-hmm. Puis là, il écoutait. Puis là, le premier conseiller vient de dire il y a un avion qui est tombé dans la tour du World Trade Center. Puis par la suite, le deuxième. Puis là, tu vois que le président est un peu défocusé. Il est encore dans la classe, mais tu vois que sa tête n'est plus là. Puis après ça... Il sort de cet endroit-là avec le Secret Service. Puis là, il se pose des questions en chemin, à savoir, parce que là, visiblement, les États-Unis sont attaqués, où est-ce qu'on l'envoie? Est-ce que vous vous souvenez d'où est-ce qu'on l'a envoyé, les amis? Moi, j'étais persuadé qu'il y avait tout le temps un bunker proche.
Ok, tu parles du président, là.
Ouais. Mm-hmm. Tu sais, j'étais persuadé, c'était Bush à l'époque. J'étais persuadé qu'il y avait tout le temps un bunker proche. Il savait tout le temps où aller. Mais ça a fait un peu comme Pauline Marois, là, quand il y a eu les attentats. Là. Tu sais, il y a un garde du corps qui tire à droite, l'autre garde du corps qui tire à gauche. T'as Pauline Marois qui fait « Où est-ce que je m'en vais? » pour finalement s'en aller directement où est-ce que le tueur était. Là. On se souvient de ces événements-là. Ben, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de l'envoyer dans le ciel. Mais, 30 000 pieds dans les airs.
Mais ça, c'est le plan de match pour vrai?
Ben ça, je le savais pas.
Ouais.
Donc, il l'envoie à 30 000 pieds dans les airs. Puis, tu vois clairement le conseiller de l'époque qui était auprès de Bush. Le plan, c'est si jamais il y a un avion ou un missile qui arrive pour descendre Air Force One, il y avait des pilotes qui étaient en mission suicide. Et si jamais il est informé qu'il y a un missile qui arrivait, ils protégeaient Air Force One avec leur avion.
Oui, ouais. Oh, absolument.
Ils se suicidaient.
Oui.
Pour leur poste et pour le président.
C'est complètement fou, là.
Ah, mais là, c'était une époque, t'sais...
Mais c'est un peu rustique, là, comme mais... façon de faire, on va se le dire.
Oui, mais là, Air Force One a un paquet de mesures antimissiles, là, t'sais, avec des flares et toute la patente.
Oui.
Là. Fait que, t'sais, de te rendre là, c'est vraiment genre le dernier recours. Mais c'est pas différent, mettons, d'un agent du service secret qui se tire devant le président quand il se fait tirer dessus avec des balles. C'est un peu le même concept, sauf oui, que là, t'as un jet dans les mains.
Mais je m'attendais à un bunker. T'sais, je m'attendais à quelque chose d'hyper sécuritaire, puis la réalité, c'était pas ça à l'époque. Je sais pas que c'est quoi aujourd'hui, mais t'sais, de l'envoyer dans les airs, je trouvais ça tout à fait logique. Mais là, de savoir que c'était les avions qui protégeaient le Air Force One, je trouvais ça particulier aussi.
Ah ouais, c'est spécial. T'sais, la protection d'un président, là, quand tu penses à ça, c'est super important parce que c'est le siège du gouvernement.
Ouais.
Mettons, le 11 septembre, il s'en va dans Air Force One, puis pour une raison ou pour une autre, Al-Qaïda est capable de descendre l'avion, puis là, boum, il n'y a plus de président. Hey, c'est le chaos dans le pays. Là, parce que oui, il y avait un vice-président, là, je pense que c'était Dick Cheney dans ce temps-là. Puis oui, il va prendre en charge d'eux, puis t'sais, mais là, il va y avoir une confusion, ça va être la panique, tout le monde va avoir peur, la guerre est pognée. T'sais. Fait que pour le symbole, c'est extrêmement important de protéger le président qui est en poste à ce moment-là.
Exact.
Puis,
exact.
Tu sais, quand tu le mets à 30-40 000 pieds dans les airs, ça paraît un peu absurde parce qu'on se dit, tu sais, il n'y a rien de plus fragile qu'un avion. Tu tires un missile sur une aile, puis boum, ça pète, puis il tombe. Mais OK, mais rends-toi là, par exemple.
Trouve-le, rends-toi là.
Parce que c'est un avion aussi qui n'est pas sur les radars, là, je comprends. T'sais, tu peux le détecter, mais il n'y a pas de transpondeur.
Puis à ce moment-là, il n'est pas avec son vice-président aussi. Tout est calculé à savoir, bon, qui se promène avec qui pour pas que s'il arrive tragédie que ce soit, ben, les deux disparaissent en même temps.
C'est ça, ils sont jamais dans le même avion. Ils sont souvent séparés là, dans les transports, puis etc. Là.
Mais comme dans tous les bons films, c'est tout un Morgan Freeman qui est prêt à prendre le rôle de président des États-Unis.
Une chance qu'on l'a. Mais il serait bon.
Oui, OK. Comment ça se passe, là, Gaza, Israël? Comment ça se passe, l'Ukraine contre la Russie? On en est rendu où dans le dossier?
Écoute, ben, si on parle de Gaza, là, le but d'Israël maintenant, c'est de prendre contrôle de Gaza. On s'en était parlé une couple de semaines, là, puis je trouve vraiment que c'est une erreur stratégique phénoménale parce que là, tu dis, OK, là, je prends contrôle, je conquiers la bande de Gaza, ça devient un territoire pas nécessairement officiellement israélien, mais sous contrôle de facto. Là. Donc là, ça va se faire. Là. L'armée israélienne est trop forte pour ça.
On a affaire aux gens de quitter.
Oui, mais tu sais, je veux dire... Oui et non, là, tu t'en vas où? T'es un réfugié, t'as aucune ressource, t'es dans les camps de réfugiés, ça va pas bien à Gaza en ce moment, là. Fait que il y a quand même une crise humanitaire là-dedans. Puis qu'est-ce que ça va donner, je le sais pas, parce qu'une fois que t'as fait un parking avec ça, là, il se passe quoi après, là?
Parce tout est à refaire, je sais pas si t'as vu les dernières images, ah, là, c'est... mais c'est une catastrophe, il n'y a plus rien debout. Là.
Non. Puis c'était ça la volonté d'eux, parce que là, OK, il y avait des tunnels en dessous du sol, puis il y avait, ils utilisaient par exemple les hôpitaux puis les écoles là, pour faire des postes de commandement du Hamas puis toute la patente. Je comprends qu'ils veulent faire un vrai ménage pour le Hamas parce qu'ils sont écœurés, là. Mais après ça, c'est quoi le plan? Ça me fait penser beaucoup à l'Irak en 2003, quand les États-Unis ont dit « Ah, il y a des armes de destruction massive, on rentre puis on fait le ménage. » OK, fait que là, tout le parti Ba'ath dans le temps, puis là, tu sais, Saddam Hussein puis sa gang, ils ont tout clairé. Parfait, après ça, il y a quoi? Puis il n'y avait pas de plan. Hein. Puis ça a été documenté par la suite que la stratégie, c'est « On fait le ménage puis on verra après. » C'est un peu la même chose qui se passe en ce moment. Là. Puis là, tu sais, le Canada, Carney a dit « Ah, oh, nous autres, on est prêts à supporter une solution à deux États, donc un État palestinien, un État israélien. » Puis je pense, moi, personnellement, qu'à long terme, tu n'as pas le choix de faire ça. Sauf que là, si tu fais le ménage, puis il n'y en a plus d'État, de bâtiments, puis de gens qui vivent là, ben finalement, tu n'en as pas de deux États. Là. Fait que tu fais juste comme avoir une diaspora qui est spreadée, là, en bon français, dans toute la région. Puis
mais
là, ben,
tu pourrais-tu rebâtir une deuxième démocratie là?
Ben, il faut que le
peuple... Parce qu'Israël est la seule démocratie dans ce coin-là. Peux-tu refaire une démocratie-là? Est-ce que le peuple est prêt à ça? Eux autres, leur parti politique, c'était des terroristes.
Oui, mais je te ramène à l'Afghanistan puis à l'Irak. Afghanistan 2001, Irak 2003. On rentre, on fait le ménage, on dit « OK, parfait, on va instaurer la démocratie ». Puis tu sais, ça a marché moyen. Là. L'Afghanistan, ça retombait avec les talibans, puis là, on en revient dans une espèce de...
Mais c'est rendu qu'on négocie avec eux autres.
Oui, mais c'est une gestion tribale, tu sais, un peu pic-pac, là, pour reprendre l'expression. En Irak, ben là, c'est un peu plus structuré. Le pays n'est pas tant que ça en crise, mais tu sais, il se passe quoi, on le sait pas trop. Là, la Syrie, là, t'as un ancien terroriste qui est rendu président, qui sort la main de Trump, puis que là, ça le légitimise, là, fait que là... C'est un peu absurde, dans le fond, où on en est rendu dans cette région-là. Dans le temps, c'était pas parfait, là, tu sais, je veux dire, Saddam Hussein qui clenche des Kurdes avec du gaz sarin, c'est pas beau, là. Sauf que ça tenait. Là, ça tient plus. Fait que là, c'est quoi le prochain step? Puis je pense que Gaza, c'est la même chose.
Ce que je trouve le plus difficile en ce moment, puis je sais pas pour vous, les gars, mais c'est de constater à quel point, auparavant, il y avait quand même une non-légitimité à ces regroupements-là. Maintenant, on mêle tellement les affaires, puis la possession de ressources et de biens. Ça avait toujours été le cas auparavant, sauf qu'il y avait la séparation occidentale en termes de valeurs et d'éthique qui était, somme toute, assez claire. Puis il y avait des lignes à ne pas dépasser, puis des barrières, puis des réglementations X entre les valeurs morales du Moyen-Orient et celles de l'occidental qui étaient respectées. Puis ça devient de plus en plus flou, avec les nouvelles alliances aussi, là, à travers le monde, là.
Ce qui a changé beaucoup, c'est que tu sais, dans la guerre froide, c'était des gouvernements qui étaient opposés. Mm-hmm. C'était vraiment une idéologie communiste contre capitaliste. Là, maintenant, c'est des mouvances. Ce n'est pas des gouvernements. Le Hamas, je comprends qu'il contrôle la Palestine, sauf que, mettons, en Syrie, là, ben là, OK, Bachar al-Assad n'est plus là, mais là, ceux qui ont pris le contrôle du pays, finalement, c'est pas vraiment un gouvernement légitime au sens où c'était un groupe terroriste qui a juste été plus fort que les autres. Fait que là, tu n'es plus dans une espèce d'opposition très claire où c'est tranché dans le milieu. Puis t'as les bombes, les méchants, là, hein, c'est jamais clair comme ça. Mais si on fait un lien avec l'Ukraine, là, par exemple, c'est très clair que c'est qui est d'un bord puis c'est qui est de l'autre bord. Il n'y a pas de terrorisme en soi. C'est pas une mouvance politique religieuse, je devrais dire, là. C'est vraiment comme deux États opposés puis il y a une guerre active, là.
Est-ce que l'appel de Trump à Poutine a changé quelque chose?
Ben moi, je trouve vraiment que Trump a l'air d'un cocu dans cette histoire-là, là, parce que là, il dit « Ah, moi, je vais, t'sais, on sait, là, je vais régler la guerre en 24 heures. » Personne ne croyait ça. OK, là, ça s'est passé. Bon, OK, c'est la politique, c'est la campagne électorale. Là, maintenant, tu es dans une situation où ce que Poutine dit « Moi, j'ai aucun avantage à négocier avec toi. Je suis en train de gagner la guerre. Ça va prendre 20 ans, je m'en sac parce que de toute façon, les gens que j'envoie là, pour moi, il n'y a pas de valeur. Puis mon industrie industrielo-militaire, là, donc tous ceux qui produisent des tanks, des missiles, tout ça, c'est florissant en ce moment. » Fait que lui, la guerre, regarde, ça continue, puis on avance. Puis on va aller chercher les quatre provinces là, à l'est du pays, puis regarde, on va se faire une bande tampon, fait que moi, j'ai pas intérêt à faire un cessez-le-feu. Fait que là, en ce moment, il entretient un peu le discours, tu sais, pour pas trop avoir de sanctions économiques, là, je parle de Poutine. Mm-hmm. Puis le Trump, il est là, non, mais viens négocier, là, faut que tu négocies. Ouais, on va négocier plus tard. Puis le Zelensky, lui, il est comme, ben oui, je veux un cessez-le-feu, là, je veux que mon monde arrête de mourir. Mais finalement, la seule personne qui a le contrôle du pays en ce moment, c'est Vladimir Poutine, puis il veut pas ça. Fait que là, finalement, il y a rien qui va se régler dans le court terme, là. C'est une guerre statique, au sens où ça va finir que les lignes de front vont avancer tranquillement, puis ça va arrêter le jour où Poutine va mourir ou il va y avoir un changement de gouvernement.
Le successeur de Vladimir Poutine, est-ce que c'est bien le monsieur de 80 ans là, qui est en place depuis des décennies et décennies, qui a tout le temps été son meilleur ami, ton successeur, il a 80 ans, il a pas 10 ans de moins que toi, là.
Oui, à savoir s'il est encore tout là. Mais Medvedev est très fort, là, l'ancien président qui était premier ministre, qui est redevenu, en tout cas vice-versa. Mais tu sais, c'est le genre de système où, après moi, c'est le déluge, là, dans le sens qu'il préparera pas genre l'après-régime. L'URSS, dans tous ses défauts, au moins, c'est un système où il y avait une succession, il y avait une gouvernance qui n'était pas bâtie autour d'une personne, mais Vladimir Poutine, c'est un dictateur dans un pays où il y a un semblant de système gouvernemental, mais tu sais, c'est tout des yes-men. Fait que si demain matin, il fait une crise cardiaque puis il meurt, ben là, la Russie est en crise totale. On ne sait pas ce qui va se passer.
David Chabot, c'est toujours un plaisir. Pascal, on va se laisser là-dessus, cher ami. Pour ce qui est de Bell, Bell était en panne là, pendant plusieurs heures. On nous dit que du côté de Bell, le courant, si on peut dire ça comme ça, serait revenu vers les alentours de 13 heures. Si ce n'est pas le cas chez vous, on fait comme on faisait avant. On débranche puis on rebranche.
Ah oui, il faut juste redémarrer.
Oui.
OK, on redémarre. Mais je ne sais pas quoi, mais on redémarre.
Ça se fait sur plusieurs appareils. Là.
Malheureusement, ça fonctionne.
Tu sais, l'imprimante aussi. L'imprimante, tu sais, quand elle ne marche pas, là, je la débranche puis je la rebranche.
C'est toi qui fais ça.
Puis je cherchais c'était qui le coupable. Puis elle fonctionne.
Je cherchais c'était qui le coupable.
Puis.
Parce que ça défrait beaucoup de programmation de l'imprimante.
C'est ça. Puis là, hier, je suis arrivé chez nous, puis là, ma blonde...
C'est ça.
Ouais, je suis arrivé chez nous, puis ma blonde fonctionnait pas. Fait que là, je me suis dit, faut que je branche, débranche. Et non, elle m'a dit non.
Non, hein?
Non, elle m'a dit, t'es pogné de me tolérer.
Moi, je vais répondre, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça. Je vous souhaite de passer une super de belle journée. On se retrouve tantôt 18h avec SOS Nancy. J'ai bien hâte de lui jaser. Sinon, Véro s'en vient avec Audrey et Max. Je vous rappelle que le maire de la Ville de Québec, Bruno Marchand, sera de passage dans nos studios. On m'a mentionné tout à l'heure vers les entours de 16h, donc restez à l'affût. Sinon, ben, l'entrevue sera disponible après, bien entendu. C'est Audrey qui va vous mettre ça en place. Donc, bonne soirée, Pascal.
Bonne soirée. À
demain. On se laisse avec Jean Leloup, la Vallée des Réputations. Puis on se rejoint tantôt. Salut!